tous, bienvenue dans l'émission Ondes Positives, notre rendez-vous hebdomadaire plein d'optimisme. On va faire le plein d'espoir et de convivialité aujourd'hui avec Nadine Daugé. Bonjour Nadine.
Bonjour Dorothée.
Nadine, tu es commerçante à Nègrepelisse. Tu tiens depuis une vingtaine d'années une mercerie et tu es couturière également. Et tu viens nous parler de ton expérience de vie et du réseau économique et solidaire que tu as lancé dernièrement, le réseau Relais. Ton message positif est le suivant: oser entreprendre autrement, oser la solidarité et l'alliance. Alors qu'est-ce que tu veux dire par là?
Oser, déjà, c'est se surprendre, je crois aussi. Mmh. Voilà. Donc décider de pas être la personne qu'on est ou qu'on estime que vous êtes. Voilà. Mmh. Souvent, on est la personne qu'on a décidé, que les autres ont décidé.
Oui.
Donc oser, c'est se dire, ben voilà, maintenant je suis au fond de la piscine, je donne un coup, je remonte, je respire le grand air et je vois ce que le monde peut m'offrir.
Oui.
Et donc là, en fait, je vais proposer aux gens de d'oser l'entreprise sur mesure, en fait, à leur mesure, à la carte.
Oui.
Donc quel que soit leur parcours, en fait, ils vont trouver une place dans cette association.
Oui.
Et ensemble, j'ai la volonté et je souhaite qu'on ait la volonté tous, de créer du travail, de l'énergie, de la synergie,
d'accord,
de l'économie.
Ok.
Et qu'on s'ouvre à un monde qui est en espérance aujourd'hui. On le voit, le monde se modifie. Mmh. Donc on doit aller le modifier nous aussi. Voilà.
D'accord.
Nous les petits.
Alors proposer du sur-mesure pour une couturière, c'est bienvenu, hein.
Je crois que c'était la base.
Alors, on va voir comment tu en arrives aujourd'hui à donner un tel message positif, en retraçant un peu ton parcours. Tu es née il y a 52 ans dans une famille de réfugiés espagnols.
Oui.
Et ta maman était couturière, culottière exactement.
Exactement, voilà.
Mais c'est quoi une culottière?
C'est quelqu'un qui fait des pantalons pour hommes. Donc, elle travaillait chez un tailleur à Montauban.
Oui.
Et donc elle donne cette précision puisque c'était très important dans son apprentissage.
D'accord.
Aujourd'hui, une couturière, on va lui demander de faire beaucoup de choses, mais à l'époque, il fallait avoir des compétences précises.
Ok. Alors, tu nais dans cette famille et tu m'as dit j'étais une enfant de qui on n'attendait rien. C'est
oui.
Ce que tu as ressenti?
Oui.
Qu'on n'attendait rien de toi?
Non, je pense que j'étais une enfant qui est arrivée, qu'on a beaucoup aimée. Mm-hmm. J'ai eu beaucoup d'amour. J'en ai encore énormément aujourd'hui, mais on n'a rien projeté. Bien souvent, quand un enfant vient au monde, on projette une histoire familiale, on projette un avenir, on se voit dans les yeux de l'enfant en se disant, voilà, j'ai pas réussi ça, je vais faire ça.
Ouais.
Pas moi.
Oui.
Voilà, j'étais l'enfant qui souriait tout le temps, qui était pas difficile, qui faisait tout ce qu'on lui disait. Donc du coup, c'était... D'ailleurs, j'entends encore le mot, elle est nature.
Elle est nature. Nadine, elle est nature.
Voilà, nature. Alors, qu'est-ce que ça veut dire nature? J'ai jamais su. Aujourd'hui, je crois que j'ai trouvé une solution.
Oui.
En tout cas, une réponse. Mais ça, c'est un mot qui m'a poursuivi longtemps.
D'accord.
Qu'est-ce que ça veut dire nature?
Alors, je te coupe, excuse-moi, mais il y a quelque chose qui m'a interpellée dans ce que tu as dit. Tu as souffert quelque part du fait que tes parents n'aient pas de projection pour toi.
Oui.
Mais il y a plein de gens qui souffrent du fait que leurs parents aient une projection trop lourde pour
et
eux.
Oui. Et ben comme quoi dans les équilibres, il faut un peu de tout.
Oui.
Et quand on a trop, quand on porte trop, un objectif sur un enfant, c'est lourd. Mmh. Mais l'inverse est vrai.
D'accord.
Parce que on s'imagine sa vie dans le regard de ses parents. Donc mmh. Quand vos parents vous regardent en disant, elle est gentille, elle est mignonne, elle est adorable, on l'adore, mais on ne sait pas ce qu'elle va faire.
Ouais.
Et vous vous sentez bête.
Ouais. Et toi, c'est ce qui se passe.
Oui.
Tes parents, tu entends un jour tes parents dire à quelqu'un, Nadine, on ne sait pas si elle est bête, mais elle est nature.
Oui, voilà.
Ouais.
Et on ne sait pas si elle fera quelque chose dans sa vie.
Ouais. Mmh.
Et on porte ça pas forcément comme un carcan,
oui.
Mais ça le devient avec le temps.
D'accord.
Voilà. Parce que on porte ça tout le temps, c'est-à-dire que quand quelqu'un vous parle, vous dites alors attends, qu'est-ce qui me prend pour une imbécile?
Oui.
Je suis naïve, peut-être que je crois ça, mais c'est pas vrai. On sait jamais.
D'accord. Parce que quelque part à l'intérieur de toi, tu t'es construit une croyance que finalement, nature, ça voulait dire aussi un peu bête, quoi, quelque part.
Tout à fait.
Mm-hmm.
Naïve.
Ouais.
Sans conscience, qui n'avait dont ce qu'elle disait n'avait aucun intérêt.
D'accord.
Voilà, ça peut pas être intéressant puisque c'est la nature. Et la nature, on lui demande rien.
Mmh.
On demande rien à un animal si ce n'est que qui vous aime et que vous l'aimez.
D'accord.
On demande rien à un arbre si ce n'est qu'il pousse et qu'il soit beau.
Mmh, mmh, mmh.
Donc du coup, quand on est un être humain et qu'on a un cerveau, on se dit mon cerveau, il produit rien.
D'accord. Et ce qui se passe dans ton univers familial, c'est aussi ce qui se joue à l'école.
Oui, bien sûr.
Avec les profs. Alors, tu m'as raconté qu'un de tes profs d'espagnol te disait, Nadine, je garde toujours ta copie à corriger en dernier parce que je me régale.
Oui.
Comment tu vis ça, toi? Comment tu le prends?
Ben, quand on vous dit ce genre de choses au début, ben, vous dites, ben, c'est super, je vais avoir une super note.
Oui.
Puisqu'en fait, le gars, j'écris, il se régale. Donc, il a compris que j'étais quelque chose.
Oui.
Et non. J'étais sanctionnée systématiquement. J'ai eu un prof de français qui lit ma copie en disant, ben voilà, je ne sais pas si c'est de la philosophie ou si c'est ça a aucun style. Donc du coup, je mets pas la moyenne puisque je n'arrive pas à me déterminer.
Mm-hmm.
Donc ça a été sans arrêt ça.
Oui.
Donc quand vous écrivez quelque chose, vous dites, ben finalement, je dis quelque chose. Et qu'à la lecture, on vous dit, mais on se régale à te lire, on garde la copie en dernier. Et qu'après, on dit, ben, du coup, comment c'est pas normal qu'un enfant de 12 ans ou de 15 ans puisse avoir une pensée comme ça. Donc, du coup, ben, on sanctionne.
D'accord.
Et ben, ça renvoie à ce que vous êtes.
Oui.
Voilà. Vous êtes nature.
Oui.
C'est-à-dire que vous avez, ce que vous dites est sympa, la façon de fonctionner est sympa. Sauf que, comme l'autre se détermine pas, ça, c'est aujourd'hui ma
oui,
vision.
Avec le recul.
Voilà, avec le recul. Comme l'autre se détermine pas ou ne comprend pas ce qu'on dit, eh ben, du coup, c'est nul.
D'accord.
Et eh ben, on renvoie une idée que, ben voilà, que vous valez rien.
Ouais. Donc, tu passes ton enfance, ton adolescence à te sentir jugé, en fait, en permanence.
Oui.
D'accord.
Tout le temps. C'est un pas en avant et trois pas en arrière. Moi, j'ai un prof en fin de troisième qui me dit, qui me font passer. Alors à l'époque, c'est seconde C, ce qui veut dire que c'est l'équivalent de scientifique aujourd'hui, et qui dit, oui, elle a les capacités d'aller. Donc on arrive en seconde, on se dit, bah, voilà, on pense que j'ai les capacités, alors que toute l'année on m'a dit que j'étais nulle. Mais bon, on arrive là et on tombe sur un prof qui dit, vous êtes pas capable. Donc hop, en fait, c'est un moment d'espoir, on avance,
oui.
Et puis après on renvoie à 10 mètres et donc on se retranche sur cet univers neutre.
D'accord.
Voilà, où on ne sait pas ce qu'on fait.
Ok, alors donc on peut dire qu'à l'école c'est plutôt moyen, et à la maison, tu apprends à coudre. Comment ça se passe cet apprentissage?
Eh bien, je crois que quand on n'est rien, on s'occupe de rien.
Oui.
Donc dans une maison familiale, en tout cas pour ma génération, les femmes cousaient. Ma mère cousait, donc était culottière, elle nous faisait nos vêtements.
Mm-hmm.
J'avais une grand-mère qui faisait du crochet, etc. Donc en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé ces femmes.
Oui.
Et je me suis identifiée à elles. Et comme j'étais gauchère, eh ben on me montrait pas parce que ma mère me disait, je peux pas t'expliquer, ça me donne mal au cœur de te voir travailler. Donc là encore, non seulement le cerveau il n'était pas capable de suivre, mais même la main n'était pas la bonne main.
Oui.
Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé ces femmes.
Mmh.
Et dans mon coin, j'ai reproduit ce qu'elles faisaient. Donc je tricotais à 6 ans, je faisais du crochet, j'en avais 9.
Tu apprends tout en regardant en face.
Oui.
Oui.
En fait, comme dans un miroir.
Oui.
C'est-à-dire que je regarde l'autre, je le transforme et je me le réadapte. Voilà.
Mmh.
Et de façon très naturelle, ce qui fait qu'aujourd'hui, bien souvent, je vois des mamans qui viennent en me disant, ma fille est gauchère, elle peut pas apprendre le crochet. J'ai dit non, vous avez tort.
Oui.
Votre fille, dès l'enfance, elle a une capacité de transformer ce qu'elle voit. Donc, faites, elle va s'adapter et elle va reproduire.
Mmh.
Et effectivement, je vois beaucoup de petites filles qui finalement ont démarré le crochet et dont les parents étaient un peu plus tranquilles, quoi.
Mmh.
Voilà.
Mmh.
Donc voilà, j'ai réussi à m'adapter.
Oui.
Avec des petites choses du quotidien qui ont fait qu'aujourd'hui, ben voilà, c'est un art pour moi, mais,
oui.
Mais à l'époque, c'était la seule solution que j'avais pour exister.
Oui.
Parce que quand vous faites un bon point de crochet ou de tricot, qui n'y a pas de trou, que vous avez fini votre ouvrage, l'ouvrage vous dit que vous avez réussi.
Et oui.
Voilà. Donc,
c'est ce qui te prouvait que tu arrivais à faire quelque chose de tes mains, quoi.
Tout à fait.
D'accord.
Donc, pas avec mon cerveau, mais au moins avec mes mains.
Et ce savoir-faire, donc tu sais coudre, tricoter, crocheter, personne ne le valorise.
Non.
Ouais.
Non, personne ne le valorise. Et puis on dit tout. Alors c'est assez paradoxal parce que tout le monde va trouver sympathique qu'une gauchère à qui on n'a rien appris soit capable de le faire.
Mmh.
Mais finalement, ça n'est pas encore quelque chose de valorisé dans la famille, puisque dans la famille, ce qui est important, c'est d'avoir une réussite intellectuelle, c'est de pouvoir avoir des postes ou des réussites à l'école. C'est vrai que quand on est fils ou fille d'immigrés, on veut réussir dans le pays où on est, et donc on veut que les enfants aient cette réussite-là. Et sauf qu'on m'avait pas choisi pour avoir cette réussite-là. Donc du coup, j'étais très j'étais là, paradoxalement, j'étais pas une personne qui, je me suis toujours posé la question de savoir qu'est-ce que je pouvais avoir d'intéressant.
Où était ta place, en fait?
Oui. Ouais. Voilà. Oui, je n'avais pas de place. J'avais un héritage, une famille qui était des gens qui étaient, comment dirais-je, réfugié espagnol, mais un était objecteur de conscience, l'autre était républicain, donc avec des gens qui avaient un potentiel de réflexion et d'ouverture sur le monde importante, mais pas pour moi.
D'accord.
Pourtant, je suis l'enfant qui arrive et qui aurait dû être la projection de tout ça. Non, j'ai un héritage familial fantastique et on a oublié de me le coller.
Si bien que tu en arrives à dire, mais à cette période de ma vie, je me sentais pas exister. C'est fort, ça, de dire je me sens pas exister.
Je pense que très longtemps, je n'ai pas existé.
Alors, on écoute le premier morceau de musique que tu as choisi et on reparle de ça tout de suite après.
Merci.
Facile même pour les imbéciles. Il s'amuse bien, il tombe jamais dans les pièges. Il se laisse pas étourdir par les néons des manèges. Il vit sa vie sans s'occuper des grimaces que font autour de lui les poissons dans la nasse. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Travaille un petit peu quand son corps est d'accord. Pour lui, faut pas s'en faire, il sait doser son effort. Dans le panier de crabe, il joue pas les homards. Il cherche pas à tout prix à faire des bulles dans la mare. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Garde autour de lui avec les yeux de l'amour. Avant que t'aies rien pu dire, il t'aime déjà au départ. Il fait pas de bruit, il joue pas du tambour. Mais la statue de marbre lui sourit dans la cour. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Par-delà les labos, chevaucher les licornes à la tombée du soir. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Comme il n'a pas d'argent pour faire le grand voyageur, il va parler souvent aux habitants de son cœur. Qu'est-ce qu'il se raconte? C'est ça qu'il faudrait savoir. Pour avoir comme lui autant d'amour dans le regard. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler.
Il est libre, Max. Hervé Christiani. Alors pourquoi tu as choisi cette chanson, Nadine?
Alors pourquoi j'ai choisi cette chanson? Parce que c'est peut-être une chanson que j'ai écoutée quand j'étais adolescente, mais c'est surtout l'image de cet oiseau dans le ciel qui volent et qui
qu'on voit dans le clip.
Oui, qu'on voit dans le clip, voilà. Et qui volent au-dessus de la société. Voilà. Donc il prend de la hauteur et en prenant de la hauteur, eh bien en fait, il se rend compte que il y a des interstices dans lesquels il peut passer où il n'est pas obligé de subir le monde d'en bas et il peut se l'approprier. Et je crois que c'est ce que j'ai réussi à faire.
D'accord. Voilà. Tu m'as dit que la liberté, c'est la force des gens qui ne sont rien ou qui n'ont rien à perdre.
Ouais, ah oui, ça, de toute façon, souvent même, j'ai pu écrire un jour des gens qui disaient que pour les révolutions qu'on a vues tunisiennes, aujourd'hui de la Syrie, en fait, je crois que quand les gens n'ont, il ne leur reste que la liberté à acquérir, la mort n'a plus d'importance. Voilà. Donc ils sont capables de dépasser, de casser des portes, de les enfoncer, parce que ils savent très bien que de toute façon ils vont mourir. Oui. Autant essayer la vie. Voilà. En tout cas, ça c'est mon parcours. Autant essayer la vie. Et quand je vois ces gens qui se battent pour la liberté, oui, autant essayer la vie.
D'accord. Alors, on continue justement ton parcours. On a vu ton enfance, ton adolescence. Alors, c'est peut-être parce que tu ne te sens pas exister pour toi-même que tu vas te marier très jeune, à 20 ans, pour avoir des enfants. Et malheureusement, ben, les enfants, ils n'arrivent pas comme ce que tu prévoyais.
Non. Voilà, une grande passion. Donc avec, eh bien, quand on n'est rien enfant, ben on vous détermine au moins comme fille, donc oui, comme mère, oui, donc une grosse envie d'être maman. Et puis après quelques années de, ben, de médecin, de contrôle, etc., on vous apprend que, eh bien, vous êtes un couple stérile. Et alors au départ on se dit, ben c'est la femme qui est stérile. Et ben non, chez nous c'était l'homme qui était stérile. Et une stérilité masculine dans les années 85-86, ce n'est pas quelque chose comme aujourd'hui avec tout ce qu'on entend. Donc c'est quelque chose qui vous tombe dessus. Et je me souviens que quand la nouvelle est tombée, eh bien, c'est 15 jours où je me souviens de rien.
C'est un trou noir.
Oui. Ben oui, parce que vous êtes rien. Oui. Mais vous êtes au moins une femme et vous devez être une mère. Et on vous dit que vous ne serez pas une mère.
Oui.
Parce que l'homme que vous avez choisi pour être le père de vos enfants ne peut pas avoir d'enfants.
D'accord.
C'est et dans ma conception de la vie à deux, ça peut pas être autre chose que l'homme que vous avez choisi. Donc c'est un drame incroyable.
Tu dis que en fait la seule chose qui te restait, la seule chose que l'on peut s'offrir sans capacité cérébrale, sans intelligence, c'est le statut de maman, le rôle, oui, de maman.
Oui. Je crois très sincèrement qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui s'en sortent avec ce statut-là, qui acceptent même les coups, qui acceptent d'être des esclaves, parce que être mère, c'est dans une société, c'est être quelque chose.
Oui.
Et bien pour moi, c'était pareil. Être mère, c'était quelque chose. Et souvent, je vois ces femmes qui ont des vies difficiles et qui sont mères et qui sont fières d'être ça. Et je me dis, quand on vous refuse ça et que vous avez que ça,
oui,
c'est horrible, c'est indescriptible. Même aujourd'hui, alors que j'ai des enfants aujourd'hui.
Oui, on va en parler.
Voilà, ça reste encore une douleur. Voilà. Et dernièrement, je discutais avec une dame qui a une stérilité et qui a mon âge aussi, mais elle le vit encore comme une douleur. C'est voilà, c'est pas un parcours fini.
D'accord.
Alors moi, j'ai la chance parce que je suis une battante.
Oui.
D'avoir décidé que je porterai mes enfants et il se trouve qu'en France, vous avez le don de sperme.
D'accord.
Et un système de don qui vous permet, eh bien, d'accéder à des spermatozoïdes.
Alors.
Et c'est le choix que nous avons fait.
D'accord. Donc c'est déjà, à l'époque, la devise que tu as aujourd'hui, oser entreprendre autrement, tu vas oser créer ta famille autrement,
oui,
devenir maman autrement.
Oui.
En osant, et c'est aussi dans ta devise, la solidarité et l'alliance.
Tout à fait. C'est croire que le don est au-dessus de tout. Max était libre parce qu'il était au-dessus de tout.
Oui.
Et l'amour est au-dessus de tout. Je crois que n'importe quel enfant accepte sa famille à condition qu'on lui dise la vérité.
Oui.
Donc nous avons décidé d'avoir des enfants par donneur. Alors de suite, je dis bien, on a une vie sexuelle normale, mais par contre, il a fallu faire abstraction du fait que, eh bien voilà, on a un donneur, on ne sait pas qui il est, et donc on va donner vie à des enfants sans savoir cette partie-là génétique. D'ailleurs, ça me posait une réflexion. Aujourd'hui, on parle du don d'organes et du don d'utérus pour porter des enfants,
oui,
et je crois qu'on était dans la même démarche. si ce n'est que nous aujourd'hui, nos enfants sont là et il y a une partie de leur vie qu'on ne peut pas leur écrire. Mm-hmm. Donc elles se retrouvent finalement dans le même statut que moi.
Oui.
Mais par contre, au-delà de ça, très tôt, j'ai compris que une famille, c'était quelque chose qu'on construisait. Donc, quand mes enfants sont arrivés, je leur ai raconté de suite bébé l'histoire. Alors, j'ai utilisé les abeilles qui butinaient un peu partout.
Oui.
Et comme elles aimaient la nature, en fait, elles offraient partout les graines des uns et des autres.
Mmh.
Et parce que les différences font la création et font de très belles choses. Et que notamment, ben, nos filles étaient issues d'un homme et d'une femme qui s'adoraient, qui ont fait des choix pour pouvoir avoir des enfants qui ne sont hors normes.
Mmh.
Mais finalement, ils ont recréé une famille, ils ont permis à deux enfants adorables d'exister et aujourd'hui notre vie ne pourrait pas être la même si elles n'étaient pas là.
Mmh.
De la même façon que si nous n'étions pas là, eh bien en fait elles ne pourraient pas être elles. Alors elles se sont construites avec cette différence,
oui.
Elles en ont fait une fierté.
Mmh.
Et j'en parle aujourd'hui au micro parce que je veux expliquer à toutes ces femmes qui ont des choix difficiles, qui ont quelquefois des enfants de plusieurs époux,
oui.
Ou peut-être même certaines ont des enfants des viols, donc des cicatrices assez lourdes. Le jour où vous choisissez de vous élever, le jour où vous choisissez que, en fait, quoi qu'il arrive, vos choix sont les meilleurs, et que comme ils ont été faits par amour, même si vous l'avez subi, vous pouvez décider d'aimer. Et nous, notre famille, on a décidé de l'aimer.
Oui.
Et donc, elle s'aime.
Voilà. Super. Tu peux nous raconter un peu le parcours quand on est un couple stérile, comment on peut faire pour avoir des enfants?
Alors, déjà, quand on est un couple stérile, il faut déjà aller chercher l'information.
Mm-hmm.
Et ça, à mon époque, c'était pas facile à trouver.
Oui.
Bon, il n'y avait pas Internet non plus. Donc, je ne sais pas comment j'ai fait. Je savais qu'il y avait le don.
Oui.
Donc, on s'est renseigné, on a vu un médecin, etc. Et qui nous a parlé du don. Et on avait une chance, c'est qu'on est tombé sur un médecin qui était informé.
Oui. Voilà.
Donc, excuse-moi parce que j'ai perdu un peu le fil.
Je te demandais en fait quel est le parcours, par quoi il faut passer en fait quand on décide de créer une famille autrement. Quelles sont les étapes, quelles sont les contraintes
Ben, les contraintes, elles sont médicales.
Oui.
J'ai parlé tout à l'heure de la contrainte affective.
Mmh.
Donc effectivement, il faut déjà être clair, il faut discuter. Donc on a eu ce trou noir de 15 jours, mais après, j'ai décidé que de toute façon, on allait l'affronter. Donc on a discuté avec mon époux. Moi, je lui ai dit, moi, je veux porter un enfant. C'est mon statut de mère que je veux.
Mmh.
J'ai dit, l'amour fera le reste. Voilà. Une fois que vous avez décidé à deux que l'amour ferait le reste et que vous êtes solidaires là-dedans, ben, vous cherchez à savoir comment on peut faire. Donc aujourd'hui, ben, il y a le CECOS, hein, qui est un centre de conservation du sperme et des ovules.
Oui.
Et ben vous adressez à eux et vous êtes dans une démarche où la première démarche qu'il y a eu, c'est que on est confronté à une chose, c'est qu'il faut essayer de trouver un donneur qui vous ressemble. Donc
physiquement.
Physiquement.
Oui.
Oui. Alors ça, c'est une donnée que on n'avait pas intégrée. Donc on se retrouve face à un médecin dans le CECOS et qui commence, alors moi j'arrive et pensant que je serai la reine, qu'on parlait de moi, et il commence et il commence à décrypter mon époux en disant voilà, vous êtes blond, vous avez les yeux verts, vous mesurez combien, et je vous assure, à ce moment-là, le rêve était disparu. Je me suis dit, voilà, j'avais vu un film qui m'avait beaucoup marqué, qui s'appelait Le choix de Sophie, où on demandait à cette femme de choisir entre ses deux enfants, et le critère de race, j'ai eu le sentiment à ce moment-là qu'on avait un critère de race, voilà.
Oui.
On nous regardait, et il fallait qu'on trouve quelqu'un qui ressemble à la personne, et donc il fallait analyser si cette personne était malade, si elle avait des antécédents familiaux, etc.,
oui.
Pour que le jumelage ne soit pas mauvais ou handicapant. Et là, le rêve, il a disparu à ce moment-là.
Oui.
Ça, c'est aussi une très grosse épreuve que je conserve encore aujourd'hui.
Mm-hmm.
Voilà.
Et ça aussi, c'est le témoignage que pour atteindre le rêve, pour fonder ta famille, être maman, il faut passer aussi parfois par des épreuves.
Ah, totalement.
Et que ça a été une épreuve, ce processus, de trouver un donneur compatible et de passer devant un psychologue pour savoir si on est capable d'accueillir un enfant dans ces conditions, etc., etc.
C'est très douloureux parce qu'en fait, une maternité non choisie, c'est quelque chose qu'on a, qu'on se pose pas de questions.
Mm-hmm.
Mais une maternité choisie, vous êtes obligé de vous poser des questions qu'on ne demanderait pas à d'autres. Et donc, quand vous êtes une enfant à qui on n'a rien projeté, qui est nature, et à qui on va lui demander de se poser des questions sur quelque chose qu'elle n'avait pas décidé. La seule chose que j'avais pas décidé de me poser des questions, c'est pour être mère. Ben, vous êtes confronté à quelque chose en disant, mais même ça, il faut que je le décide, il faut que je le choisisse, il faut que je le réfléchisse, il faut que je trouve ma place.
Oui.
J'ai trouvé ma place. Parce que j'ai décidé que j'aurais une place dans cette famille.
Mmh. Super Nadine, merci pour ce témoignage vraiment très intime, très touchant. On va parler maintenant de l'aspect professionnel, si tu veux bien, parce que pendant toutes ces années où tu désires être maman, bien sûr, la vie continue et puis tu travailles comme tout le monde. Tu vas faire différents métiers, caissière, employée, assistante, secrétaire, où tu apprends, mais où tu ne trouves pas encore ta place à ce moment-là professionnellement, jusqu'à un moment en 98, à peu près, aux alentours de 98, où il y a quelque chose qui s'ouvre à Nègrepelisse. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Qu'est-ce qui se passe?
Alors, en 98, je décide de créer un atelier de couture.
Mm-hmm.
En fait, je me suis dit, la seule chose que j'ai fait dans ma vie, c'était coudre.
Eh oui.
Du loisir créatif. Et j'ai toujours... Alors, par contre, une particularité, c'est que comme j'ai toujours tout choisi, quand on n'est rien, faut tout choisir.
Mm-hmm.
Tout ce que j'ai fait, j'ai voulu être dans l'excellence. Donc, tout ce que j'ai pu me suis approprié comme droit... J'ai voulu être excellente dedans. Et en 98, j'ai dit, bon, allez, je monte l'atelier de couture, parce qu'on me le demande.
Oui, c'est-à-dire que le voisinage sait que tu couds et te demande tout simplement, Nadine, fais-moi ci, fais-moi
voilà.
ça.
Voilà, de toute façon, c'est une demande. Mm-hmm. Voilà, et donc je dis, voilà, je vais l'utiliser.
Mm-hmm.
Mais là encore, je ne pouvais pas me juger. Je n'avais pas fait d'études. Je savais que le résultat, quand vous cousez, vous voyez un résultat. Mais
oui.
Est-ce que le résultat que vous allez, le jugement va être positif?
Oui, est-ce que ça va plaire finalement?
Ça va te plaire.
Mm-hmm.
Donc, voilà. Donc, on s'est mis en marche là-dessus et ça a plu.
Oui.
Et donc, j'ai appris, je me suis formée, j'ai rencontré des gens. J'ai une faculté de pouvoir être ouvert aux gens. Et donc, j'ai rencontré des mamies qui avaient des savoir-faire, qui m'ont cédé, qui ont compris que l'intérêt de transmettre. Et donc, j'ai récupéré une folle, plein de petites choses des uns et des autres.
C'est un retour aux sources, quelque part.
C'est la seule chose que je me suis octroyée de savoir-faire.
Ouais.
En fait, à ce moment-là, j'ai compris que j'étais, comment dire, c'est difficile à expliquer, mais à ce moment-là, j'avais le droit d'être dans l'entreprise, j'avais le droit d'être dans mon entreprise et je pouvais enfin donner quelque chose.
Mmh.
Jusqu'à présent, j'étais quelqu'un qui recevait rien et qui ne donnait rien. Et là, tout d'un coup, j'ai décidé que je serais une chef d'entreprise et qui donnerait un savoir.
D'accord.
Donc, c'est un basculement, mais... Mmh. Ça n'a pas été encore très facile, ça.
Oui, on comprend bien.
Voilà. C'était encore du jugement permanent.
Oui.
Donc, je faisais quelque chose, un pas. Est-ce que c'est bon ou pas bon? Voilà.
Oui. Donc, tu fais ces travaux de couture et dans le même temps, tu apprends que la mercerie, l'ancienne mercière de Nègrepelisse vend sa boutique, part.
Voilà.
Et donc, tu vas te dire, je vais intégrer cette activité de mercerie dans mon activité de couture que j'ai déjà par ailleurs.
Tout à fait. Alors ça, c'est quelque chose aussi que je dois à mon parcours de montage de Lego, peut-être.
Oui.
C'est que chaque fois que quelque chose était délaissé, je le prenais.
Mm-hmm.
Donc là, cette mercerie était délaissée. Je me suis dit, on peut pas laisser des gens qui ont pendant des années permis à cette activité d'exister sans rien. Donc moi, je fais de la couture. Finalement, c'est un complément. Je prends la mercerie et je l'intègre.
Mm-hmm.
Voilà. Et je m'aperçois que finalement, j'ai monté l'entreprise toujours comme ça. Vu qu'on laisse tomber ça, je le prends et je vais en faire. C'est comme un poussin qu'on couve en fait.
Mm-hmm.
Des fois, on voit des oisillons, ils pleurent. Ben, vous leur donnez la béquille, vous êtes content de voir que vous avez permis un envol.
Mm-hmm.
Et ben, finalement, c'est ça. J'ai pris plein de petits bouts que les gens laissaient.
Oui.
Alors, il y en a certains qui ont existé, d'autres non. Mais la mercerie et l'atelier de couture existent toujours. Voilà.
D'accord.
Ça, c'est quelque chose qui reste encore aujourd'hui et dont je fais. J'en fais quelque chose de chouette.
D'accord. Alors la vie continue, donc tu reprends cette mercerie, tu es dans ton activité de couture. Et puis en 2010, donc c'est assez récent, hein, ça fait 4 ans, il y a une jeune fille qui va rentrer dans ta mercerie et qui va te donner une nouvelle vision de toi.
Oui. Il y a des auteurs qui parlent de muses, qui arrivent comme ça par hasard, et je crois que j'en ai une.
Mmh.
Je me souviens parfaitement de cette jeune fille qui avait 18 ans, je crois qu'elle a poussé la porte, 18 ans. Elle est arrivée un soir,
oui.
Et elle pousse cette porte en me disant, voilà, vous allez me sauver ma vie.
Alors, je fais un petit peu de teasing. On va voir comment tu vas lui sauver la vie. Mais d'abord, on écoute le deuxième morceau que tu as choisi.
Si le battement d'aile d'un papillon quelque part au Cambodge déclenche sur un autre continent le plus violent des orages, le choix de quelques-uns dans un bureau occidental bouleverse des millions de destins, surtout si le bureau est ovale. Et il n'y a que l'ours blanc qui s'étonne que sa banquise fonde. Ça ne surprend plus personne de notre côté du monde. Quand le financier s'enrhume, ce sont les ouvriers qui toussent. C'est très loin la couche d'ozone, mais c'est d'ici qu'on la perce. C'est l'effet papillon, petite cause, grande conséquence. Pourtant jolie comme expression, petite chose, dégâts immenses. Qu'on l'appelle retour de flamme ou théorie des dominos, un murmure devient vacarme, comme dit le proverbe à propos. Si au soleil tu t'endors, de biafine tu t'enduiras. Si tu mets une claque au videur, courir très vite tu devras. Si on se gave au resto, c'est un fait, nous grossirons. Mais ça c'est l'effet cachalot. Revenons à nos moutons,
à nos papillons.
Un hôtel, un après-midi, aventure extra-conjugale, puis le coup de boule de son mari. Alors, si ton nez te fait mal,
c'est l'effet papillon. C'est normal, fallait pas te faire choper. Si par contre t'as mal au front, ça veut dire que c'est toi le mari trompé.
Avec les baleines, on fabrique du rouge à lèvres, des crèmes pour filles. Quand on achète ses cosmétiques, c'est au harpon qu'on se maquille. Si tu fais la tournée des bars, demain tu sais que t'auras du mal pour récupérer à 8 heures ton permis au tribunal.
C'est l'effet papillon, petite cause, grande conséquence. Tant joli comme expression, petite chose, dégâts immenses.
Le papillon s'envole, le papillon s'envole, tout bas de l'aile. Le papillon s'envole, le papillon s'envole, tout bas.
L'effet papillon, Benabar. Alors Nadine, qu'est-ce que ça évoque pour toi, cette musique ?
Je pense que c'est le mouvement, c'est ce qui est à la croisée du chemin. Mm-hmm. C'est-à-dire que cet effet papillon, pour moi, ça a été le... J'ai pris conscience que le plus petit pouvait être à côté du plus grand.
Oui.
Et que quelquefois, une petite personne pousse une porte. Mm-hmm. Et vous permet d'ouvrir un monde magnifique où, dans lequel vous allez tout construire. Un jour, j'ai dit à quelqu'un, ouvrir une porte sur du vide, c'est formidable. Parce qu'en fait, le vide, ça se remplit. Mm-hmm. Mais une fois que vous avez ouvert la porte, vous êtes sûr que vous pouvez le remplir.
Oui.
Quelquefois, on a du mal à pousser la porte. Et donc, on parlait tout à l'heure de la jeune fille, de
oui.
Julie. je donne son nom, Julie Delefly.
D'accord.
Qui est mannequin. Et un soir, elle pousse ma porte et je vois cette jeune fille affolée. Il faut que vous me sauviez la vie.
Oui.
Je fais un show dans 10 jours, j'ai rien, il faut faire un maillot, etc.
Un maillot de bain.
Un maillot de bain.
Oui.
Et je lui dis, qu'est-ce que c'est? J'ai dit, laisse-moi le temps, on va réfléchir. Je discute avec elle parce qu'en fait, on ne crée pas sur les gens sans les connaître. Donc, on discute un peu et puis, je sais pas, 2 jours après, dans la nuit, j'ai une idée. J'ai dit, écoute, j'ai un truc pour toi.
Mm-hmm. C'est la première fois qu'on te demandait de créer une pièce
comme ça, oui.
Tout entière. Ouais, oui, d'accord.
Oui, oui, et puis qu'on me fasse confiance.
Mm-hmm.
Qu'en fait, on me dise, voilà, ton expérience, tu es la seule qui peut me faire quelque chose, quoi.
D'accord.
Dans le cas, en tout cas, pousser la porte et me le demander. Et donc, je lui fais un maillot, donc un truc de délire, bon, qu'elle porte avec grâce. Et là où je ris, c'est qu'en fait, moi, je m'étais fait mon film.
Oui.
Donc, elle allait défiler, etc. Et là où c'est magique, c'est qu'en fait, je parlais du petit et du plus grand. Et quand le petit est magique, c'est formidable. Et en fait, elle est allée défiler.
Oui.
Alors qu'elle est de couleur blanche.
Oui.
Pour être une miss qui était une miss des Antilles.
D'accord.
Où toutes les mannequins étaient de couleur noire.
Mm-hmm.
Donc elle n'a pas gagné le show parce que en fait elle correspondait pas au
profil. Elle était hors critère, oui.
Oui, mais finalement c'était génial.
Mm-hmm.
Parce que elle aimait tellement son métier. Mmh. Elle souhaitait tellement montrer son corps, puisqu'elle aimait son corps,
mmh.
que finalement, elle est venue chez quelqu'un d'improbable.
Toi.
Moi. À qui elle a fait confiance pour qu'on lui fasse une tenue improbable.
Oui.
Que j'ai faite.
Oui.
Défiler dans un endroit où elle n'était pas attendue du tout.
Mmh.
Et je trouve que c'est une générosité chouette. La création, elle se trouve là. À faire quelque chose que personne n'attend. Dans mmh. un endroit qu'on vous attend pas,
mmh.
avec une passion telle que vous défilez, vous êtes belle.
Parce qu'elle était totalement dans le plaisir. Elle
oui.
se fichait des critères.
Mmh. Et donc du coup, tout d'un coup, cette personne qui était dans le plaisir, moi j'étais dans le plaisir. On a trouvé une alchimie qui fait que, eh ben, en fait, on ne s'est jamais quitté.
Mmh.
2 ans plus tard, on me demande d'assister à un défilé. Et je lui ai redemandé, j'ai dit bon, ben j'ai envie de faire pour toi parce que et on a fait une création où en fait on l'a fait défiler. Les gens ont cru qu'elle était nue, mais on a imaginé quelque chose.
Mm-hmm.
Et aujourd'hui, chaque fois que là on va refaire quelque chose pour la femme le 8 mars là pour la journée de la femme, elle fera partie aussi de ça. Donc pourquoi l'aile de papillon? Parce que je crois qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui passe dans votre vie, qui vous frôle.
Oui.
Qui vous fait confiance, qui vous regarde différemment parce qu'elle vous connaît pas et elle vous ouvre un monde et le monde bien souvent c'est le vôtre.
Mmh, mmh.
Et là, j'ai perçu que je pouvais être quelqu'un.
D'accord, à 48 ans.
Oui.
C'est la première fois que tu as l'impression de faire quelque chose de bien ou que quelqu'un te félicite parce que quelque chose lui convient.
C'est la première fois où je me dis, mais tu vaux quelque chose.
Oui.
Voilà.
Super. Donc, ça te donne envie de créer.
Ah oui.
D'oser encore plus.
Oui.
Et aujourd'hui, tu ne crées pas que des vêtements, tu crées carrément un réseau.
Oui.
Le réseau Relais.
Oui.
Alors, tu peux nous en parler de ce réseau?
Alors, ce réseau, c'est une marque déposée importante.
Oui.
Qui s'appelle Box Relais 800.
Mm-hmm.
La Box, c'est une boîte, en fait.
Mm-hmm.
C'est une boîte à secret. C'est une boutique. C'est un endroit où passent beaucoup de choses. Le Relais, c'est un réseau.
Oui.
Donc, un réseau d'économie locale, puisque je viens de l'économie. Et 800, pourquoi? Parce que le 8 a une particularité, c'est que si vous le couchez, en fait, c'est l'infini.
Oui.
Et le double zéro, en fait, c'est le nul, sauf que quand vous l'assemblez, c'est aussi l'infini.
Mmh.
Donc, cette marque, c'est dire, voilà, on ne sait jamais qui est grand, qui est petit, on ne sait jamais quand est-ce où on se situe,
oui.
mais finalement, si on n'est pas là, le monde n'existe pas.
D'accord.
Alors, le réseau est bâti là-dessus en disant, voilà, nos différences sont des forces de création.
Mmh.
Je vais faire en sorte que tous ces petits gens qu'on regarde pas, qu'on ignore, qu'on dit qu'il a un petit truc et tout, on va leur ouvrir un endroit, un espace,
mmh.
dans lequel ils vont pouvoir venir.
La fameuse box.
La fameuse box.
D'accord.
Ils vont pouvoir venir, ils vont pouvoir rentrer, ils vont pouvoir interagir, ils vont pouvoir exister, ils vont avoir le droit d'être que petits.
Mmh.
Et dans cet univers, par exemple, je disais si une dentelière passe sa vie à faire une dentelle, je veux qu'elle puisse vous la présenter.
Oui.
Et par exemple, si un richissime chinois veut acheter son dentelière, elle puisse le vendre.
D'accord.
Sauf que cette petite dame qui vaut rien, elle aura passé une vie à mettre en place une culture, alors qu'elle aura reçu un dessin qu'elle aura fabriqué. Et en fait, ce riche monsieur va permettre à cette culture d'exister. Voilà. Plus personne ne va perdre ce qu'il est. Parce que chaque personne est intéressante. On n'est pas rien. On est forcément quelque chose.
D'accord.
La seule chose, c'est qu'il faut un endroit où on vous permette de vous regarder en vous disant tu es quelque chose.
D'accord. Donc toi, tu permets cette concrétisation,
oui,
en fait, parce que là, ce que tu nous as expliqué, c'est l'idée, c'est le concept.
Oui.
Et alors concrètement, donc ce que tu souhaites, c'est mettre en place des lieux dans les villages.
Oui.
Donc un
ou
local
les
ou les quartiers. Ou les quartiers pour les villes, un local collaboratif qui soit un espace de vente, un espace de partage, un espace de formation, de réunion,
d'animation, d'atelier. D'accord. En fait, tout ce que le petit peut faire. Aujourd'hui, les gens ont toujours la vision des choses un peu grandes.
Oui.
Si cette jeune fille n'avait pas poussé, cette petite jeune fille n'avait pas poussé la porte dans un petit endroit pour me demander quelque chose, jamais elle aurait existé, jamais j'aurais existé.
Oui.
En fait, donc je me suis dit qu'il, si on avait des micro-lieux, qui soit de taille humaine, qui soit dans cette générosité de partage, plus jamais personne ne pourrait dire je ne suis rien. On pousse la porte, on prend le temps sur mesure ou à la carte d'analyser ce qu'il est et on fabrique la boîte qu'il faut pour lui.
Sur mesure.
Sur mesure.
Et c'est pour uniquement les métiers du textile?
Alors, la base, c'est le textile, parce que moi, je suis du textile,
bien sûr.
Bien sûr. Et puis, un jour, c'est ce que je disais à quelqu'un, un enfant, quand il vient au monde, on fait deux choses. La première, on le nourrit. La deuxième, on l'habille. Donc, pour ce qui est de l'alimentation et le monde agricole, je crois qu'aujourd'hui, le bio et toutes ces synergies-là existent, et c'est pas ma part. Par contre, toute la partie du textile, avec le textile, c'est du fil qu'on mélange, c'est des liens qu'on tricote.
Ah ouais.
Donc, par exemple, on ouvre une box là sur Nègrepelisse, et vous avez donc la base du textile et la mercerie, puisqu'en fait l'entreprise est dedans. Mais vous avez également des gens qui sont venus, qui sont des artistes. On a des chanteurs qui viennent, par exemple. On a des personnes qui ont de la droguerie, qui ont de la quincaillerie. Il y a d'autres qui ont des métiers des mains. En fait, j'ai une personne qui est venue l'autre jour en me disant « Ben voilà, je fabrique des sacs plastiques avec... est-ce que je peux les avoir ?» Oui. Elle aura sa place. En fait, on a tout un ensemble de gens avec des petites pièces de Lego qui sont des entrants et qui, en fait, sont en train de fabriquer un monde meilleur et un monde nouveau. Et j'en suis très, très fière.
Je comprends. Alors, cette box à Nègrepelisse, elle existe déjà?
Ah, mais on en a une à Montclar, de Quercy. On a la chance d'en avoir une à Toulouse. Alors, ce sont des box que nous avons créées.
Oui.
Mais on a aussi la chance d'avoir des box qui nous ont rejoints, c'est-à-dire des gens... Parce qu'en fait, comme c'est un système à la carte, chaque personne qui pousse la porte a des demandes particulières et on s'adapte. Donc, on a d'autres personnes sur Toulouse. J'en ai une sur Aucamville. Enfin, voilà. Et on a bientôt quelque chose sur cette fond. Et c'est... voilà, on avance.
D'accord. Donc, ce sont des commerçants ou des associations qui mettent à disposition leur lieu, leur local, pour collaborer avec d'autres.
En fait, comme c'est à la carte, c'est ce que les gens voudront.
D'accord.
En fait, le système est tellement pensé petit qu'il se loge dans la moindre parcelle de cerveau. Quelqu'un va avoir un espace et ne sait pas quoi en faire, il va pouvoir nous appeler. Une mairie a peut-être personne comme commerçante dans son espace et voudrait et a un local, va nous appeler et nous on va lui créer une activité. Une petite personne a juste une petite activité et n'a pas un circuit de distribution parce que c'est pas suffisant, elle va pouvoir nous voir.
D'accord.
En fait, on va utiliser des espaces dans des endroits improbables avec des gens petits, que personne ne s'intéresse. Et en fait, en les faisant collaborer, en les réunissant, on va monter un système qui va permettre à la petite petit quartier d'avoir quelqu'un, à la petite structure d'avoir peut-être un apport financier supplémentaire, à la petite personne à la retraite ou la dame qui travaille, qui n'a que 2 heures. Moi, je pense par exemple aux femmes qui sont à la maison. Elles ont que 2 heures à proposer en travail, mais elles peuvent pas être embauchées. 2 heures par semaine à proposer.
Oui.
Et bien, nous, on va essayer de leur caser les 2 heures.
D'accord.
Parce que pendant ces 2 heures-là, elles ont quelque chose à offrir. Mmh. On va le proposer. Puis, elles seront surprises de se rendre compte qu'elles vont peut-être trouver des gens qui auront envie de ces 2 heures-là partagées avec elles, ou en tout cas de ce qu'elles vont pouvoir offrir à la société. Je crois que le monde de demain est à inventer.
D'accord.
Tout est à faire.
Alors, tu parles de monde de demain, de nouveau monde. On va écouter le 3e extrait que tu as choisi. C'est la symphonie numéro 9 de Dvorak, Le Nouveau Monde. La symphonie numéro 9 de Dvorak, Le Nouveau Monde.
Oui, enfin un monde nouveau et un monde meilleur. Oui, voilà, c'est totalement ce pourquoi j'existe aujourd'hui.
C'est ton objectif ?
Oui. En fait, je crois que ce système en partage collaboratif, cette porte ouverte sur ce monde nouveau, c'est l'objectif de ma vie, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, j'ai pas besoin de savoir si je vais mourir ou vivre.
Oui.
Je sais que ma vie sera importante. Voilà. Parce que elle ouvre une porte sur un monde qui va permettre à tout le monde d'être ensemble. Voilà. Alors c'est un rêve, peut-être une démocratie, une vision de la démocratie, je ne sais rien, mais quand on est riche de l'autre, quand on est riche de la vie de l'autre, quand on sait que on peut vivre ensemble et inventer un autre monde, et bien c'est une richesse incroyable. Et en fait, je disais tout à l'heure que être nature, être rien, c'était tout mon parcours et ça a été très difficile. Mais aujourd'hui, je suis quelque chose. Alors, je ne serai pas ce monde. Le monde qui va arriver, je ne le serai pas.
Oui.
Puisque j'ouvre la porte et il est vide et il faut le créer. Mais par contre, je suis celle qui ouvre la porte. Je suis celle qui sera une passerelle.
Oui.
Et je crois que si les box relais sont quelque chose, c'est une passerelle. Un endroit où on va passer. Un endroit où on va peut-être rester. Un endroit où on va construire. Un endroit où on va travailler. Un endroit où on va collaborer. On va participer. Mais en attendant, un endroit où on sera quelqu'un. Et quelqu'un de vivant. Dans lequel on ne vous jugera pas. On vous demandera de participer. Parce que forcément, vous avez quelque chose à donner.
C'est ça le grand enseignement positif de ta vie, alors, finalement. Oui. Tu sais aujourd'hui que tu n'es pas rien, tu es quelqu'un et que tu es une passerelle.
Oui.
D'accord.
Oui. Et qu'on ne peut dire jamais à quelqu'un qu'il est rien.
Oui.
Il est forcément quelque chose d'important, puisque le monde ne serait pas ce qu'il est s'il n'était pas là. Dans une famille, quand vous avez des enfants, un enfant arrive et vous vous rendez compte que la famille est perturbée. Et elle ne pourra plus exister tant que cet enfant, parce que cet enfant est là, il a amené quelque chose, un regard différent. Eh bien, la boxe, c'est pareil. Les gens qui vont rentrer vont amener quelque chose. Et on a choisi le statut d'association parce qu'en fait, c'est un statut en équilibre. L'association, elle, est à but non lucratif. Donc, elle ne gagne rien.
Et toi, tu ne gagnes rien personnellement non plus.
Du tout. Ce qui est, en fait, ce système est un système qui est en équilibre comme une clé de voûte. Dans les châteaux ou dans les églises, il y a une clé de voûte. C'est-à-dire qu'on monte l'étage et à un moment donné, on met une clé. Et le simple fait que cette clé soit là, tous les blocs sont solidaires et créent une magie. Eh bien, l'association, le réseau d'économie locale, en fait, il sait ça. C'est une clé. Une clé qui va permettre à tous les entrants de se trouver ensemble, de se réunir. On peut être dedans. On peut en sortir quand on veut. Mais forcément, le fait d'arriver, on amène quelque chose. Et l'association est obligée d'être très bonne. Parce que si elle ne l'est pas, les gens s'en vont et on perd quelqu'un. Donc, cet équilibre-là me paraît être... C'est l'équilibre de la vie.
Oui.
Pourquoi on est là? Pourquoi on s'en va? En attendant, le simple fait de l'avoir compris, de l'avoir réalisé, eh bien, on décide de sa vie, on décide d'être acteur.
Alors Nadine, où est-ce que les auditeurs peuvent te joindre s'ils veulent collaborer au réseau relais, ouvrir une box, s'ils veulent avoir plus d'informations
Voilà, s'ils veulent déjà exister et se dire « je vaux quelque chose et donc j'ai trouvé un endroit dans lequel je vais pouvoir le montrer ».
Oui.
Donc déjà, ils peuvent appeler le 05 31 30 4x0. On a un numéro magique.
Ouais. Il est facile à
retenir. Ah oui, c'est 313 en fait.
Ouais.
C'est vraiment un numéro magique. Ensuite, il y a un mail.
Oui.
Donc contact@boxrelais.com. Il y a un site.
D'accord.
Qui s'appelle boxrelais.com également. Voilà.
Ok, bon, très bien. Ces coordonnées seront reprises dans le podcast de l'émission qu'on trouve sur Internet.
Et Négropolis, la box de Négropolis est à côté de l'église.
Ouais, ou un rue de l'église.
Voilà.
Donc pour ceux que ça intéresse, elle est ouverte tous les jours.
Du lundi au samedi, de 9h à 19h en journée continue.
Voilà, donc on peut s'y rendre, aller poser des questions et voir un peu à quoi ça ressemble.
Pousser la porte.
Voilà.
Et voir toutes les animations. On a quand même 16 animations qui sont proposées d'ici la fin de l'année.
D'accord.
Dont le pollen, l'espéranto, le sol. On a des choses sur l'enfance handicapée, la maltraitance des personnes âgées.
D'accord.
Voilà, encore de l'humain.
Ok. Merci beaucoup Nadine pour ton témoignage. J'espère vraiment que ce beau réseau de partage se développe très très vite.
Je n'en doute pas. Je crois que le monde s'est développé parce qu'il y avait des hommes. Et dans notre système, il y a des hommes et des femmes.
Oui.
Donc, ils peuvent faire que des enfants merveilleux.
Bon, très bien. On reste sur ces belles paroles.
Merci.
Chers auditeurs, je suis sûre que cette émission avec Nadine vous aura donné envie de construire votre vie hors normes et sur mesure. N'oubliez pas que tout est possible. Cette émission est rediffusée samedi à 21h et vous la trouverez en podcast sur cfmradio.fr. Je vous rappelle que vous pouvez me contacter sur la page Facebook Ondes Positives CFM Radio ou par mail dorothee.alio@hotmail.com. Je vous souhaite une semaine super positive et à mardi prochain.